écolos en cavalcade.
Bienvenue tout le monde à l'émission Les écolos en cavalcade. Salut Élodie.
Salut Fabien. Salut et Mathieu.
Salut Mathieu.
Salut.
Donc c'est notre coach qui est avec nous pour cette émission. C'était l'invité surprise et c'est notre première émission en retour du Covid.
Ouais.
Et ça va être une émission spéciale. Donc j'ai pas précisé, mais évidemment, voilà, premier défaut, vous êtes bien sur Radio Calade sur le 100.9.
Eh ben, on va commencer tout de suite par le JDBNCDPQ, le journal des bonnes nouvelles.
Ça dépend pour qui.
Alors, on attaque avec des nouvelles internationales. Donc là, c'est une info que j'ai pêchée dans les échos. Donc, il s'agit de Novatech qui lance son deuxième méga projet dans l'Arctique. Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de l'Arctique, du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Donc, Novatech, il lance son projet dans l'Arctique avec Total. C'est ça qui est bien. Donc, Novatech, c'est un groupe gazier russe qui s'est associé au français Total, au japonais Mitsui Jogmec et au chinois CNOOC CNPC. C'est un projet qui est estimé à plus de 20 milliards de dollars et le démarrage prévu en 2023. Donc, c'est un projet qui va concerner le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Donc, le chantier s'appelle Arctic NLG2. Total est actionnaire chez Novatech à 10%. Il détient 19,4% de Novatech. Encore une fois, le financement de ce projet, il est un petit peu public. Les bénéfices sont un petit peu pour les actionnaires. Donc voilà, l'appel d'offres a déjà été lancé. Siemens y a répondu. Ça va être pour des équipements de compression. Et puis voilà, il va donc y avoir, en Arctique, alors qu'on nous parle beaucoup du réchauffement en ce moment, il va y avoir de plus en plus de brise-glace, parce qu'il faut ouvrir les voies.
Ouais, j'allais poser la question, comment ça va se passer physiquement là-bas,
tu sais, des brise-glace.
Ouais, sympa.
Des plateformes de forage, et puis on va y aller. Je vais vous donner que, donc ils vont y aller, ils vont extraire le gaz liquide.
Super, et des machines, je suppose, qui vont dégager aussi de la chaleur dans un endroit qui est déjà en train de se réchauffer.
Donc c'est top, parce que là, on vient d'avoir la Convention citoyenne sur le climat qui nous fait 150 propositions pleines de bonne volonté. Et puis voilà, on a des multinationales qui s'en tamponnent et qui vont aller chercher le gaz.
Ouais, je crois que c'est la loi du plus c'est grillé, moins c'est grillé.
Exactement.
On pourra les huer correctement, je pense.
Ouais. Ouais. On continue avec une deuxième nouvelle internationale. Là, vous allez voir, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça dépend pour qui. Donc la bonne nouvelle, c'est pour les autochtones canadiens. La mauvaise nouvelle, c'est pour les poissons. Donc, j'ai trouvé cette nouvelle dans Ici Radio. C'est une nouvelle qui est fraîche, ça date du 4 mars 2020, c'est pas très très vieux. C'est une compagnie minière. Là aussi, c'est toujours des compagnies. Donc, c'est une compagnie minière de lithium qui veut vider deux lacs et qui va faire don de ses poissons aux autochtones canadiens. Et moi, je trouve que le geste est merveilleux. C'est formidable.
Mais pourquoi faire ?
Alors, pourquoi faire ? Parce qu'en fait, la mine qui va être... c'est pour créer une mine, en fait, pour aller chercher une mine, pour fabriquer du lithium qui sera utilisé pour les véhicules électriques.
D'accord.
Ben oui. Donc, le projet s'appelle Rose Lithium Tantale. C'est dans le nord du Québec. La multinationale, c'est la Corporation Lithium Element Critique. Donc les dons de poissons vont être faits à la communauté, évidemment avec de la pêche électrique, ils vont pas aller le chercher avec la petite canne.
mais là c'est des champions.
Donc voilà, bonne nouvelle pour les autochtones. Alors le projet, il a un coût. Encore une fois, on parle pas du financement, on parlera pas des bénéfices. Le projet, il va coûter 341 milliards de dollars. Elle est belle la crise.
Sympa.
Et il va débuter, il va avoir lieu entre 2022 et 2039, donc vive le monde d'après.
Ouais, mais au moins tu mangeras du poisson.
Voilà. Une fois, après il n'y en aura plus, mais au moins ils vont manger. Je vais donner un autre petit chiffre, ils vont déblayer 1,61 milliard de terres de minerais, Hein, ça, c'est une sacrée quantité. Et comme ils vont vider les deux lacs, ça représente 276 millions d'eau à pomper. Ça fait l'équivalent de 110 piscines olympiques. Donc, eau, bien commun, voilà, l'eau, c'est...
Et puis, sans parler de l'écosystème, des espèces protégées, de tout ce que ça va dérégler autour, comme tous les milieux, etc. Enfin, c'est complètement dingue d'entendre des trucs pareils.
Donc, c'est 7,7 hectares, un premier lac de 7,7 hectares qui va disparaître, et un deuxième lac de 4,7 hectares qui va disparaître.
Ouais, mais on aura du poisson.
Voilà, on aura du poisson, mais on peut les huer aussi.
Eh bien, les bonnes nouvelles, elles arrivent. Et les bonnes nouvelles, elles vont être nationales. Cocorico, avec l'ASPA. Donc, l'ASPA, c'est qui, l'ASPA?
C'est une association qui est une association de lutte anti-chasse et qui protège l'environnement, évidemment, la nature. Et qui est quand même bien active au quotidien sur aussi les achats de terrain.
Exact, exact. Donc l'Association pour la protection des animaux sauvages. Donc l'ASPA, elle lance une grosse mobilisation générale contre la chasse estivale. Parce que vous savez que notre gouvernement, depuis le 1er juin, il a prolongé la période de chasse durant tout l'été. Ça va être sympa de se balader cet été. Le tourisme va peut-être en prendre un coup de fusil.
Moi, j'ai déjà fait l'expérience hier parce qu'ils font les tirs de nuit sur les renards. Et hier, ça pétait entre 23h et minuit. Il y avait des coups de feu dans la nuit, juste à côté de chez nous. C'était merveilleux.
Et ils ont expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont relancé la chasse? Ils ont donné une raison à ce... Enfin, ils ont prolongé la période de chasse?
Ah, mais je crois qu'on a un gouvernement qui aime bien la chasse à court, la chasse tout court, la chasse tout le temps. D'accord. En fait, ils doivent pas trop aimer les chanterelles, ils doivent pas trop aimer les murs.
T'as d'un côté, c'est devenu une activité et un lobby qui fait gagner de l'argent. Et aujourd'hui, protéger la nature, c'est pas vu comme quelque chose qui fait gagner de l'argent. Alors que pourtant, ça ouvre des parcs, ça peut faire des entrées, ça peut faire des emplois, ça peut faire plein de choses. Mais ouais, je pense que derrière un chasseur, tu mets toute la tenue de chasse, les cartouches, le fusil, le truc que tu renouvelles tout le temps, les abonnements, les chiens et tout ce qui va avec. Je peux te dire que c'est un sacré nid à fric.
Permis de chasse, c'est comme le permis de pêche, ça augmente chaque année.
Ouais, mais pourquoi cette année, ils ont dit en 2020...
Parce que pendant le Covid, ça a été, je pense, stoppé. Et du coup...
Pauvre chasseur.
Pas d'action. Après, je ne les mets pas. Voilà, faut qu'on fasse gaffe à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais clairement, moi, d'entendre tirer pour l'heure du renard, ce n'est pas un truc qu'on a besoin de faire. C'est totalement contre-productif et on n'a pas besoin de le faire. Mais prolonger la chasse alors que la faune sauvage dégringole, qu'on va être sûrement dans des périodes de sécheresse, écoute, avec tout le vin blanc qui vont s'enfiler, je pense qu'ils vont tomber comme des mouches sous le cagnard.
C'est tout le mal qu'on leur souhaite.
Non, mais en tout cas pour ceux qui sont vraiment en mal de tuer, je pense surtout à ceux-là, mais ceux qui sont qui tirent leur bécasse une fois ou deux par an, on parle pas du tout des mêmes personnes. Non. On parle pas de la même pratique non plus.
Non.
Donc ouais, faut qu'on fasse attention à vraiment pas faire trop d'amalgame parce que c'est vite fait anti-chasse, anti-écolo, anti-machin.
Faut pas faire l'amalgame entre régulation et élevage. Hein, faut faire attention.
Oui aussi, oui. L'élevage du sanglier qui pose problème derrière après quand ils sont en grand nombre.
Ouais. Donc les chasseurs pourront cette année encore abattre des chevreuils, des daims, des sangliers, des renards, presque partout en France. Presque, parce que là, l'ASPA intervient. Donc, je vais vous donner quelques départements à éviter cet été. Je m'excuse pour le tourisme, mais il va falloir choisir entre sécurité et loisirs, finalement.
Ou alors, il faut rester en ville.
Et ben voilà, on a peut-être moins de
là où il fera franchement plus chaud.
Oui, en faisant attention de ne pas se faire taper dessus, quand même. Il y a du danger de partout.
Sait-on jamais.
Donc, les départements à éviter cet été, la Vendée, avec 258 contributions, et puis 84% d'opposition à la prolongation de la chasse. Mais les préfets n'ont rien à faire, ça a quand même été autorisé.
C'est ce qui est dingue, j'ai entendu que justement le pourcentage, alors je ne l'ai pas en tête malheureusement, et donc la source est un peu bancale, mais j'ai en tête plus de 90% contre la chasse. De manière générale, suite à une consultation publique.
Oui.
Et on est en train de nous dire que, après avoir consulté les gens qui ont majoritairement dit non, on va le faire quand même. Enfin, ils vont le faire quand même.
Eh ben, je valide tes chiffres. Hein. On est
c'est
à...
complètement
c'est aberrant.
Donc la Vendée, on va éviter. On est à 84% d'opposition, mais rien à faire. L'Aude, on va éviter aussi, parce qu'on est à 89% d'opposition, mais rien à faire. L'Hérault, on va éviter aussi, l'Hérault, parce qu'on est à 90% d'opposition, hein, suite à la consultation, mais rien à faire. L'Ariège, 97% d'opposition.
97 ?
97%
d'opposition. Celui-là, je l'avais entendu, celui-là, ce chiffre.
Et rien à faire. les Pyrénées-Atlantiques, là où il y a nos petits nounours et tout.
C'est ça.
Eh bien, on est à 98% d'opposition et...
Rien à faire.
Voilà. L'Isère. Et là, j'aimerais adresser un petit message à un certain monsieur qui est très écolo. Donc, dans l'Isère, on est à 98% d'opposition et...
Et rien à faire non plus.
Et rien à faire non plus. Voilà. Donc, l'ASPA, ils ne se laissent pas faire. Ils décident de réagir. Et sur leur site, en fait, ils vont proposer un arrêté. Voilà, ils vont proposer un arrêté, l'ASPA, un contre-arrêté, finalement. Et puis, donc, ils mettent en ligne un outil avec lequel on va pouvoir saisir les préfectures, les maires, les députés. Et ils ont mis en ligne des petits formats de panneaux qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, qu'on peut imprimer pour attention aux promeneurs, il y a ça va tirer, attention aux cueilleurs, ça va tirer. Finalement, voilà.
Moi, ça m'est arrivé pendant un inventaire où j'étais du coup en pleine nature, où il y avait un panneau marqué « Attention, chasse, restez sur les chemins ». En gros, on est dans le coin. Bon, le truc, c'est que tu sais pas où. Parce que bon, moi, je partais faire mon terrain. Je devais aller dans des zones qui, justement, ne sont pas dans les chemins. Donc, j'ai serré les fesses comme jamais. J'entendais « de partout ». Et ouais, c'est dangereux. Après, bon, voilà, j'ai encore une fois, je dis « bon, bah... » Attention, mettons pas tout le monde dans le même panier, mais quand même, aujourd'hui, chasser de cette manière, et surtout ne pas écouter le peuple, quoi. On se fout de la gueule du peuple, clairement. Le peuple répond. Je me demande même au niveau légal s'ils sont pas en train de préparer aussi une attaque juridique contre l'État.
Peut-être.
Parce que là, c'est totalement illégal. Mais voilà, là, on sort du Covid, il faut reconsommer. On n'a pas le temps de se poser la question. Ce genre de sujet, on n'a pas le temps.
Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il naît une vraie psychose. Moi, je suis une chasseuse-cueilleuse. Enfin, chasseuse-cueilleuse, je vais dans la nature, quoi. Je vais ramasser du blob, voilà. Et donc, en fait, quand je croise des personnes, c'est une vraie psychose. Maintenant, quand on se balade dans la forêt, les gens ont peur, quoi. Ça les freine pour aller se promener, en fait. C'est dommage.
Bah, si tout l'été, il va falloir craindre de tomber sur un chasseur et de ne pas se faire tirer dessus, oui.
Vive le confinement 2.
on verra ce que ça donne au niveau des chiffres et des accidents de chasse dont on ne parle jamais non plus.
Ah.
Qu'il y a des centaines de morts chaque année, c'est hallucinant. Enfin, des centaines d'accidents de chasse, de centaines de morts, je suis peut-être un peu large. Mais il y a des accidents dont on n'entend jamais parler. Des coups de feu, il y a eu tout, hein. Il y a eu des trains qui se sont pris des balles, des trains en marche, il y a eu des automobilistes, il y a eu des joggeurs pris pour des sangliers, il va falloir revoir le permis de chasse, je crois.
Il y a même des chasseurs qui se sont entretués, ils se sont pris pour du gibier.
Oui, aussi, ouais. Non, mais c'est un peu comme dans beaucoup de choses. Pour moi, le permis de chasse, ça devrait être comme le permis de conduire. À un moment, il faut refaire une réévaluation des acquis.
Oui.
Et quand on a, je suis désolé hein, pour les anciens, mais quand on a plus de 80 piges, sauf si on est vraiment un PP exceptionnel, avec une vue exceptionnelle, etc. Mais je sais pertinemment qu'à partir de 80 ans, quand je vois des personnes très âgées avec un fusil, honnêtement, voilà.
Complètement d'accord.
Je voudrais bien être certain de savoir à qui on a affaire. Les fusils ne sont pas systématiquement cassés quand ils croisent des passants. Il faut le faire. Comme les cartouches, on en ramasse à la pelle, il faut les ramasser. Alors moi, je discute beaucoup avec des chasseurs et il y en a beaucoup qui sont dépités de voir à quel point leur pratique est décriée par la majorité des gens parce que, a priori, une minorité fait toutes ces bêtises. Et c'est un peu comme dans tout, je pense. Mais lui, ouais, j'en discutais avec un gars, il me disait clairement... on en a un peu marre de prendre pour les autres. Moi, le gars me disait, moi je les ramasse mes cartouches, moi je fais attention, c'est un vrai plaisir. Dès que je peux, voilà, je suis pas le gars qui tire sur tout ce qui bouge. Même des fois, j'ai rien du tout, et ben c'est pas grave, je me suis bien amusé, j'ai bien marché, j'ai bien crapahuté. Bon, voilà, ceux-là, moi perso, Il me dérange pas.
Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur.
Mais bon, le problème, c'est qu'on sait pas quel est le pourcentage de ce genre de personnage. Et ça, c'est un peu chiant. Mais bon.
Les écolos en cavalcade.
On est toujours sur Radio Calade, 100.9 FM, et vous êtes avec les écolos en cavalcade. Alors, on va continuer avec le JDBN CDPQ, le
Journal des bonnes nouvelles, ça dépend pour qui.
Donc, on va faire une nouvelle un petit peu plus locale. On va parler de Belleville en Beaujolais et du permis de végétaliser. Mathieu, est-ce que tu sais ce que c'est le permis de végétaliser ?
Alors, je n'en ai aucune idée, je ne connais pas du tout.
Moi, j'ai une petite idée. Mais je sais pas si je dis tout maintenant. Je te laisse dire.
Alors, le permis de végétaliser, qu'est-ce que c'est ? Déjà, ça a plusieurs objectifs. Ramener la nature en ville, la biodiversité en un saint lieu, permettre le développement et l'épanouissement de tous nos jardiniers urbains, et puis embellir la cité. Donc, c'est un formulaire, en fait, qui est mis à disposition par la ville de Belleville pour les particuliers, les associations, les collectifs et même les commerçants. Il s'agit de planter des fleurs ou des légumineux, autour des pieds d'arbres, des mobiliers urbains, les abribus, les blocs d'électricité, les murs, les clôtures, mais pas les parcs et jardins. On ne peut pas végétaliser les parcs et jardins. Donc le permis, il est mis en place pour un an. Il s'agit d'une occupation de l'espace public. Et donc il y a une charte de végétalisation qu'il faut lire pour ne pas planter tout et n'importe quoi, garder des espèces locales qui ne soient pas invasives. Et le permis de végétaliser, on en fait la demande. Le délai est très court et ensuite on a ce permis pendant un an parce qu'il s'agit de planter et puis d'entretenir. On ne laisse pas ça à la charge.
Ouais, tu fais ton pas de porte, quoi. En gros, exactement. Tu fais ton trottoir.
Donc c'est vraiment une très très bonne initiative. Ça permettra de ramener un petit peu de végétation en ville. Ça permettra aussi de permettre aux citoyens de se réapproprier l'espace public. C'est mis en place à Belleville, c'est tout frais, ça a 10 jours à peine. Et j'espère que ça fera effet levier sur les communes de Montmerle, de Villefranche et alentour.
C'est une très bonne initiative. Et moi, je travaille sur une aussi. Alors, ce n'est pas moi qui la pilote directement, mais je travaille sur un projet sur Lyon aussi, où on a cet objectif-là à l'échelle d'un arrondissement. C'est une association locale qui s'occupe de coordonner tout ça. Et ils vont même jusqu'à proposer de faire des sortes de petits emplacements dans les trottoirs, donc de creuser les trottoirs pour pouvoir repermettre. Alors, ça me fait beaucoup rire parce que je croise encore des gens qui, quand ils voient une herbe, ils finissent le travail au ciseau et qu'il y a une petite herbe qui dépasse. Et là, on est en train de redéfoncer les trottoirs pour remettre de la végétation, quoi. C'est bien. Surtout que ça va être, je pense, esthétique. Certaines personnes, ça va être la première entrée qu'ils vont voir, ça va être l'esthétisme. Oui. Nous, ce qu'on va voir, c'est l'effet intéressant au niveau des liens avec les pollinisateurs, même pouvoir produire en ville. Après, je me pose une question sur ça, c'est qu'on ne peut pas, à mon avis, planter n'importe où.
Oui.
Parce qu'en ville, il y a des sols de remblais sur lesquels on a construit et des sols potentiellement pollués et toujours pollués.
Oui.
Et du coup, des plantes dont l'objectif derrière aussi est de les consommer, des fruits notamment. Ça peut être compliqué, je pense. Il va falloir montrer patte blanche pour être sûr de ne pas pouvoir, de pas se retrouver avec derrière un effet boomerang pas volontaire.
Il y aura des fleurs, j'ai regardé la charte, il y a plusieurs variétés spécifiques. On ne peut pas planter tout et n'importe quoi. Basilic, menthe. Par contre, le petit côté bien par rapport à la pollution, c'est que si on remet de la végétation, potentiellement, on va ramener du mycélium. Et le mycélium, il participe à détruire la pollution qui se trouve dans la terre.
Ah oui, les champignons, ils la stockent, ils ont un rôle là-dedans. Mais ouais, c'est une question aussi importante de faire avec des plantes locales. Ça, c'est super important. Il faut arrêter d'aller chercher des trucs aux quatre coins du monde. Il faut faire avec ce qu'on a et réapprendre. Déjà, comme les jardiniers, nos grands-parents faisaient, avec toute la connaissance que certains avaient sur les plantes anciennes, etc. Si on avait ne serait-ce que la moitié de ce savoir-là, on serait des tueurs.
Et le risque des plantes qui ne sont pas locales, justement, je pense que vous avez quelques exemples, peut-être pour m'expliquer un peu mieux.
En plante pas locale qui peut s'implanter, tu vas avoir, enfin pas locale et qui sont quand même bien dans le décor depuis longtemps. Moi, je pense, déjà, il y a souvent l'ambroisie qui est un peu décriée et on en fait tout un foin parce qu'il y a les cas d'allergie. Gros cas d'allergie, alors que l'ambroisie, non, même pas. Non, non, c'est vraiment les cas de. Ouais, enfin, peut-être.
Quand tu passes la tondeuse et que t'as de l'ambroisie qui te gicle comme ça.
en fait, le meilleur atout qu'on ait contre l'ambroisie, en fait l'ambroisie, elle pousse sur des sols pauvres. Et du moment où tu vas avoir un sol dénudé, en fait, si tu le végétalises toi rapidement, que tu sèmes rapidement, globalement, elle supporte pas la concurrence et elle poussera pas.
D'accord.
Elle pousse sur les sols pauvres. Donc, c'est sûr que dès que toutes les zones de chantier, tous les nouveaux chantiers, c'est là où tu as les risques souvent d'ambroisie.
Oui.
Après, tu as le buddleia qui est vendu dans les jardineries.
Ouais, qu'est-ce que c'est ?
Et c'est l'arbre à papillons, ça te fait des sortes de grosses fleurs violettes, des massifs avec des fleurs. Ça te fait une inflorescence un peu, ça fait un cône de fleurs violettes. Mmh. Et globalement, ça aussi, c'est une plante qui, comme la renouée du Japon, encore une autre plante envahissante, invasive. Prennent le dessus sur les autres plantes et peuvent avoir des effets néfastes sur l'écosystème.
D'accord, ouais, ça détruit les plantes locales qui sont censées pousser là.
Ouais, c'est ça. Ça leur prend la place et même au niveau faune, t'as quasiment aucune espèce qui niche là-dedans en fait.
Ouais, parce que les animaux ils sont pas.
Ouais,
ils
ont on a juste là par exemple pour arriver à. Pour trouver des solutions, il y a eu plein de solutions qui ont été faites, qui ont été chercher du côté de la renouée du Japon parce qu'elle a tendance... en fait, 1 cm de rhizome de renouée donne une renouée. Donc, si tu broies la plante, globalement, tu l'essaimes.
D'accord. Donc, même la détruire, en fait, c'est la...
Donc, si tu la détruis, il faut faire ça vraiment correctement. Et du moment où tu laisses quelque chose dans le sol, en fait, il faut l'enlever vraiment entièrement du sol. Sinon, t'en auras tout le temps. Donc, il y a eu aussi le fait de mettre des bâches dessus pour voir si elle repoussait pas, enfin pour essayer d'empêcher l'arrivée de lumière.
Ouais.
Elle perce. Donc, bref, avec le bambou aussi. Mais t'en as plein. Donc, ouais, souvent les gens, ils se disent, ouais, on va faire un truc zen. Ouais, tout de suite, bambou. Bambou, et le bambou est une espèce qui, enfin, à part les pandas, chez nous, il n'y a pas d'espèce qui s'en intéresse, quoi.
Ouais.
Donc, on va pas relâcher des pandas. Mais c'est peut-être un projet de Macron bientôt.
Le bambou, il est utilisé dans des. Je crois, hein, peut-être que je me trompe, dans les stations. Les zones d'épuration naturelle.
C'est pas le bambou, c'est le roseau.
D'accord,
enfin, le roseau commun, le phragmite. Ouais, il est utilisé dans la phytoépuration.
Exact.
Mais c'est pas du.
C'est pas du bambou.
C'est pas du bambou du tout, non.
Okay.
Non, non. Là, c'est vraiment une plante locale de zone humide.
D'accord.
Mais ouais, c'était une petite aparté.
Ok. On va causer un petit peu du confinement. Qu'est-ce qu'on dit ? Comment ça s'est passé de ton côté ? Qu'est-ce que tu as observé ?
Alors, le confinement, de mon côté, ça a été... Alors, j'en ai discuté aussi avec Mathieu. Je serais content d'avoir son point de vue aussi. Mais on en a discuté un peu et je suis partagé entre... Il y a eu du très bon et il y a eu du très mauvais. Je vais commencer par le très mauvais, comme ça on finit sur une note sympa. Le très mauvais, ça a été notamment toutes les distributions qu'il y a eu de masques jetables, de gants jetables, donc du plastique.
Ouais.
Et en fait, moi, sur des inventaires, beaucoup de collègues aussi, on a vu les 3/4 de ces masques jetés dans des cours d'eau, par-dessus des fossés, dans la nature. Autre pollution, on a eu des cas de destruction d'habitat, dans le sens où des personnes qui voulaient se débarrasser d'un boisement, d'une mare ou de ce genre de milieu, l'ont fait, puisque globalement, il n'y a personne pour dire que ce n'était pas bien de le faire. Donc bon, il y a eu de ça. On a eu beaucoup de décharges sauvages. Les déchetteries étant fermées, les gens, au lieu de stocker, ils ont tout bazardé. Et voilà, ça. Et donc voilà, donc ça, c'était vraiment le très mauvais. Et après, dans le bon, on a eu des gens qui ont redécouvert leur jardin, qui ont redécouvert qu'il y avait de la vie dans leur jardin, qu'il y avait des animaux dans leur jardin. C'était assez drôle. On a l'impression qu'ils étaient dans le monde de Narnia. Tu sais, waouh, il y a des serpents dans mon jardin. Ouais, c'est normal. Tout va bien. Et du coup, ouais, ça c'était assez sympa de voir des gens du coup qui se sont intéressés. On a eu des gens aussi qui ont pris un gros coup de stress de voir qu'il y avait tout ça. Et l'autre note positive, c'était sur le, je trouve, les gens qui se sont beaucoup plus rapprochés et qui ont fonctionné plus en circuit court, oui. qui se sont mis à faire un peu plus de la débrouille
oui.
Et à voilà, et à fonctionner avec les producteurs locaux. Il y a eu de plus en plus de choses qui sont faites. Ça, c'est vraiment la grosse note positive.
Et ça, c'est des habitudes qu'il va falloir garder maintenant. Mmh.
Donc voilà, ouais, de mon côté, c'est comme ça que j'ai vu un peu le confinement, mais on l'a vraiment pas mal vécu. Nous, on était en la campagne, et puis bah, moi, mon activité s'arrêtait pas. Donc du coup, j'étais dehors. On me regardait de travers, d'ailleurs, parce que je continuais de travailler. Oui. Je me suis fait balancer deux fois.
Oui.
Voilà, parce qu'il y en avait qui avaient peut-être la rage de me voir travailler ou de me voir dehors me balader dans les prés. Et bon, voilà. Mais voilà pour moi. Et Mathieu ?
Moi, la vision du confinement sur les questions écologiques, je pense que c'était au pays de Candy, quoi. Ouais. C'était beau, on a vu des animaux sur Facebook c'est qui ça. Étaient en plein milieu de la ville. Mmh. C'était incroyable ce qui se passait, le ciel était bleu et au-dessus oui. des villes, il n'y avait plus de nuages. Donc,
c'est vrai.
Et ouais, en fait, en sortant, en passant un coup de fil à quelqu'un sur le terrain, c'est-à-dire toi, Fabien.
T'es redescendu.
Je suis très vite redescendu. Et ouais,
merde.
C'est bien beau, mais ça ne changera pas le monde. J'ai l'impression, deux mois d'humains enfermés, ça ne changera pas le monde.
Mais par contre, on a un sacré bel exemple pour montrer que. On a un sacré bel exemple à montrer comme quoi, quand on arrête.
Oui.
Bah, la pollution, clairement,
ah oui.
elle descend, mais de manière faramineuse. Et du coup, voilà, je me dis, on a cet exemple, on sait que si on arrête totalement, ça marche. J'espère que ça va faire tilt, quoi, c'est tout.
Pourvu que ça dure.
Et toi, le confinement, alors, du coup ?
Eh ben écoute, moi, le confinement, j'avais hâte de ressortir. J'ai été bien occupée. Comme toi, hein, j'ai vu pas mal de personnes s'émerveiller devant la nature. Des circuits locaux aussi, j'ai vraiment été agréablement surprise par l'évolution des pensées sur des produits locaux. Et puis à côté de ça, j'ai observé des décharges sauvages, j'ai observé des gants et des masques sur les parkings de grande surface. Enfin voilà, donc les bonnes habitudes sont à conserver et pour le reste, on va vite oublier le jetable.
Alors, je ne sais pas s'il nous reste un tout petit peu de temps, mais j'aimerais juste essayer de rappeler deux, trois petites choses à se souvenir quand on s'occupe de son jardin, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, l'entretien d'une haie, d'arbre, on ne fait pas ça en pleine saison de montée de sève des arbres, déjà, si on connaît un peu les arbres. On ne détruit pas non plus l'habitat d'espèces protégées parce qu'on sait combien elles sont menacées, combien elles se cassent la figure et combien on en a besoin, ne serait-ce que pour l'arboriculture, les vignes, etc. Il va falloir vraiment que chacun se dise « bon voilà, l'entretien, je le fais en automne et durant l'hiver ». Essayer de récupérer les matières, arrêter d'arroser à tout va. Bon, là, on a un autre problème, c'est que maintenant, tout le monde se met à construire des piscines. Ça devient indécent vis-à-vis du monde agricole, je trouve.
Oui.
On n'est pas encore en pénurie d'eau. Il y a des pays européens qui commencent à l'être et qui savent que l'eau, c'est de l'or. Je pense que ça sera bientôt l'or de la France, bientôt. Ouais. Mais pour l'instant, on n'a pas encore conscience, donc on construit des piscines. Et les autres petites choses, au-delà de la loi, donc, on a normalement interdiction de détruire pendant la période de reproduction des espèces, donc au moment où, de toute façon, il y a les fleurs, il y a les fruits dans les arbres. Donc, voilà. Et j'espère que les paysagistes, c'est un petit appel aux paysagistes aussi, s'il vous plaît, essayez de sensibiliser vos clients. Souvent, j'ai discuté avec des paysagistes, ils me disent répondre à une demande de la part des clients, eh ben, essayez de les former un peu, ces clients, arrêtez de répondre forcément juste à une demande, essayez de leur expliquer que voilà, les tailles, c'est pas à tout va, c'est pas à n'importe quelle période, c'est même normalement illégal. Bon, il n'y a pas un mec qui va aller siffler derrière chaque arbre, donc forcément, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Mais même chez soi, normalement, on doit faire ça, on doit y faire attention. Et puis, planter local, faites des jardins... observez, participez, soyez vigilants aussi, regardez la nature, si vous voyez des dysfonctionnements, contactez les associations de protection de la nature locale. On n'est pas là pour balancer, on est là pour faire que tout ce petit monde y vive bien et en équilibre. Voilà, essayons de se rappeler un peu, c'est du basique là que j'ai donné, mais voilà, pas de coupe, pas de... Et si vous avez un green de golf, s'il vous plaît, faites un effort, gardez un mètre de prairie. Un mètre de prairie, c'est bien. Dans un green de golf, il n'y a rien.
Ça fait joli.
Il y a une fourmi et trois gendarmes qui se battent en duel, et alors que dans une prairie, c'est tout de suite foisonnant. Et oui. Voilà, si on aime manger et boire, pensez aux pollinisateurs, donc faites des prairies.
Très bien.
On termine, si j'ai le temps, pendant deux minutes pour parler d'une initiative bleu-blanc-zèbre, parce que c'est une émission qui est inspirée par le mouvement bleu-blanc-zèbre. Donc là, on va parler d'un zèbre du Beaujolais. Il se trouve que je suis la présidente de cette association, c'est l'Effet Papillon, qui organise ce week-end, samedi 27 et dimanche 28, de 10h à 18h, à Belleville en Beaujolais, une gratiféria. C'est un marché de la gratuité, c'est un événement qui est solidaire, écologique et citoyen.
Et ça me fait penser, la prochaine fois, je mettrai le cri du zèbre. Parce que personne le connaît, en vrai. Pas du tout, tu verras.
Bon, sur ces belles bêtises, on va vous souhaiter une bonne soirée.
Ouais, et puis merci à Mathieu d'être venu, d'être resté avec nous plutôt, parce qu'il était déjà là. Mais ça fait plaisir de se revoir tous les trois. C'était notre première émission après le Covid, tous les trois. Donc voilà, c'était sympa. Et merci à vous tous pour l'écoute.
Au plaisir.
Bonne soirée.
À bientôt.
Les écolos en cavalcade.